podcast by Tendance Ouest. Des bouquins dans les poches, Élodie Laval.
Paru aux éditions Le Pucheux, le nouveau livre de Christophe Warny, Le dernier paysan, un siècle d'une ferme normande, relate le parcours de vie de René Bénard, qui a consacré toute sa vie à sa ferme. Le livre est le fruit d'une longue série d'entretiens menés au cours de l'année 2020. Sensible, sincère, authentique et parfois touchant, le récit à la première personne nous plonge dans le quotidien de la campagne normande, du début du XXe à nos jours. Christophe nous parle de son livre. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Christophe Warny, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages en lien avec le patrimoine et la tradition normande. Quel est votre lien avec la Normandie ?
Je suis né il y a 76 ans, et je l'ai souvent quitté depuis. Le tiers-monde a été un sujet qui m'a beaucoup mobilisé, et puis je suis revenu vers ma Normandie à l'âge de la nostalgie peut-être.
Et quel est votre port d'attache aujourd'hui ?
Alors j'habite l'agglomération de Rouen, mais je suis souvent dans mon village natal de Valmont, près de Fécamp.
Vous êtes retraité, quel a été votre domaine d'activité ?
J'étais maître de conférence en sciences de l'information et en anthropologie, voilà.
Comment avez-vous commencé à rédiger ces récits documentaires sur la Normandie et le patrimoine normand ?
Disons que c'était pas centre d'intérêt, comme vous disiez tout à l'heure, prioritaire, en voyant comment mes petits-enfants fonctionnaient, ce qui était complètement différent de ce que j'avais connu au même âge que 50 ans plus tôt, ça m'a ramené vers mon enfance, et mon enfance, c'est la Normandie et le Pays de Caux.
Est-ce que vous aviez vous-même dans votre famille des personnes qui étaient impliquées dans le domaine agricole ?
Non, pas du tout. Et c'est ce dernier ouvrage, c'est une saga paysanne, mais mon père, lui, il était maître d'école et j'ai beaucoup raconté l'école, d'autant que c'était une école assez originale, très ouverte sur l'environnement et l'extérieur. Et j'ai fait deux livres là-dessus et je me suis rendu compte qu'un enfant de paysan, c'était pas tout à fait comme un enfant de maître d'école, comme on disait. Et il y en a un que je connaissais très bien et je me suis dit que non seulement j'allais raconter sa vie, mais c'est lui qui allait parler.
Par rapport aux autres ouvrages qui ont été publiés et signés de votre nom sur le patrimoine normand, quels sont vos sujets de prédilection ?
Le mot patrimoine convient à moitié. C'est vraiment les années d'après-guerre qui m'ont intéressé et ce qui m'intéresse comme anthropologue ou comme scientifique humain, c'est comment fonctionnaient les gens, les groupes humains, qu'est-ce qu'il y avait dans leur tête il y a 60 ans qui est assez différent de ce qu'il peut y avoir aujourd'hui. C'est en fait vraiment les humains qui me passionnent individuellement ou peut-être davantage encore les groupes humains.
Et y a-t-il en Normandie un territoire dont le patrimoine, l'histoire, la sociologie vous intéresse plus particulièrement ?
Comme j'avais des racines dans le pays de Caux, c'est indiscutablement le Cauchois qui m'a intéressé. Alors c'est vrai que je suis également passionné par les cours masures normandes, etc. Mais c'est vraiment comment fonctionnaient les gens, ou bien comment moi, quand j'avais 10 ou 15 ans, comment je les voyais fonctionner, comment je les imaginais fonctionner. Hein, c'est bon, je suis sur le tard, je suis beaucoup intéressé à l'anthropologie sur le tard, et c'est effectivement la sociologie de l'humain, le fonctionnement de l'humain, mais en général, l'humain avec toutes ses connexions autour, famille, collègues, etc.
Comment avez-vous commencé à collaborer avec les éditions régionalistes Le Pucheux ?
Quand je me suis intéressé à la Normandie, avant, j'avais fait appel sur des ouvrages de sciences humaines ou liés au tiers-monde ou à la relation Nord-Sud à des éditeurs parisiens spécialisés. J'ai moi-même été éditeur un certain nombre d'années. Et là, j'étais sur la Normandie, j'ai rencontré Le Pucheux et on a formé très vite une très bonne alliance. J'ai sorti trois livres et le dernier paysan et le dernier de ces trois livres.
Alors, dans ce nouveau livre, vous racontez le parcours de vie de René Bénard, agriculteur sénomarin, qui a pris sa retraite en 2007. Comment est-ce que vous avez connu René ?
René, je le connais depuis très très longtemps. Il a une dizaine d'années de plus que moi et il parle parfaitement le patois cauchois en même temps que le français. On peut parler dans l'une ou l'autre des deux langues, si je puis dire. Et lui, il me dit, moi je te connais depuis très longtemps, je t'ai vu arriver à Valmont, t'étais dans ta carrette à poulot. C'est-à-dire que tu étais dans ta voiture d'enfant. Et c'est là qu'on a fait connaissance. J'avais 10 mois, j'étais dans la voiture d'enfant, et lui avait 10 ans, il était à l'école de mes parents. Voilà, c'est là qu'on a fait connaissance. Et ensuite, bah, on ne s'est pas vu tous les jours, hein, bien sûr. D'autant, bon, j'habitais plusieurs années hors de France, mais j'aimais beaucoup sa façon de raconter. Je me suis dit que je tenais un conteur. Si je voulais parler du terroir, eh bien, j'avais le conteur. C'est quelqu'un qui adore raconter et qui sait raconter. Et pas seulement, disons, des éléments généraux, mais plein d'anecdotes qui sont souvent plus révélatrices que de des discours qui seraient un petit peu théoriques.
Et quel lien aujourd'hui vous unit avec René ?
On est de très bons copains, je le voyais que épisodiquement, et depuis une quinzaine d'années, je le vois beaucoup plus souvent. Et je dois dire que juste avant le confinement, on a passé des dizaines d'heures ensemble, chez lui, au resto, à marcher dans la campagne, et avec mon magnéto dans la poche, j'ai enregistré. Et je peux même le remercier, parce que quand le premier confinement est arrivé, j'avais déjà rassemblé un certain nombre de choses et j'ai commencé à mettre de l'ordre dans les notes, dans les dizaines d'heures enregistrées.
Et comment René s'est confié à vous ? Comment il a organisé son discours ? Ou du moins, comment vous avez pu orienter son discours ?
Alors, c'est vrai que ça a été, disons, relativement désordonné, au début assez ordonné, parce que il avait de très bons souvenirs de ses parents et de ses grands-parents qu'il avait connus, ce qui me permet de, disons, d'aller sur un siècle entier. On commence en 1917 avec sa grand-mère qu'il a très bien connue, et donc il m'a très bien restitué l'histoire de sa ferme et des aïeux avant que lui-même en soit le, j'allais dire le propriétaire, c'est faux, puisque il est un fermier et les paysans cauchois sont pas, en général, pas propriétaires de la terre. Donc c'est comme ça que ça s'est fait au début, de façon assez chronologique. Et puis après, bah, il faut discuter beaucoup avec pas mal de choses qui vont pas servir, mais de temps en temps, on isole une anecdote et puis ça fait rebondir. Disons, j'ai pris autant de plaisir à l'interview et à la discussion que je t'en ai pris ensuite à mettre de l'ordre dans le récit.
Alors justement, le livre commence avec le récit de l'obtention difficile d'ailleurs du certificat, puis René se plonge dans l'histoire de sa famille avant d'aborder la sienne. Donc du coup, l'organisation que vous avez choisie pour le livre, c'est à la fois une organisation chronologique et thématique, et pourquoi vous avez choisi d'organiser cet ouvrage de cette façon ?
Bon, je pensais que la chronologie était plus facile parce qu'elle permet de voir l'évolution de la ferme, hein, entre sa grand-mère qui arrive avec rien et puis lui qui a construit quelque chose, même si le jour de sa retraite, il continue à traire ses vaches à la main. Donc j'ai utilisé toute la chronologie, puis de temps en temps, je me suis arrêté sur certains secteurs qui sont des secteurs clés dans le pays de Caux, comme... par exemple, tout ce qui a trait aux animaux, les vaches, c'est l'élément roi de la ferme, mais aussi, je me suis un peu appesanti sur le lin, qui est quelque chose de particulier, que René aimait beaucoup. Mais je dois dire que, comme vous le dites, c'est chronologique et thématique, mais j'ai toujours fait en sorte qu'on passe pas 2-3 pages sans qu'il n'y ait pas une anecdote, soit révélatrice, soit drôle, parce que il est globalement drôle, René.
Ah justement, comment définiriez-vous le caractère de René ?
Bah, je pense que c'est un vrai paysan cauchois, avec quand même une différence qui m'a avantagé, c'est que ça n'est pas un taiseux. René, il parle, il est assez exubérant, et c'est donc ce qui me permet de recueillir énormément de choses. Je dois dire, pour compléter ma documentation, je suis allé interroger aussi 3-4 autres paysans du même âge, ce qui me permettait d'avoir des infos et puis de poser de nouvelles questions à René. Mais disons que il n'avait pas le caractère très spontané de René et puis l'envie de rire de tout. Et malgré une vie qui a été loin d'être facile, de pratiquement jamais se plaindre.
Et quels sont les événements de la vie de René qui vous ont le plus touché personnellement ?
Bah, ça peut être la sienne ou celle de ses parents. Bon, c'est vrai que je pourrais en citer un, mais qui tient à sa mère. Et bon, il avait à ce moment-là 5-6 ans. Son père est prisonnier dans un camp après la débâcle en 40. Et bah, il n'est pas très heureux d'être dans ce camp. Et il demande à sa femme par lettre, bah, viens me chercher. Et cette femme, qui n'est jamais sortie de Valmont, eh bien, va devoir aller en train à Pithiviers. Elle ne sait pas où est Pithiviers. Elle ne sait pas comment on prend un billet de chemin de fer. mais finalement, elle part avec sa valise bourrée de jambon et de saucisson pour s'il y a un contrôle difficile, parce qu'il y avait des contrôles partout, disons en 1940, donner aux gens un saucisson ou du beurre ou autre pour régler le problème de contrôle. Et bon, ça prend un certain nombre de pages, et cette épopée de cette femme très très débrouillarde qui arrive à sortir son mari d'un camp où il était en transit avant d'être envoyé comme prisonnier en Allemagne. C'est une des histoires très drôles, mais il y a des histoires très drôles à ces cochons qui lui font des farces diverses. Et puis, il y a quelquefois des histoires un peu moins drôles.
Revenons au cochois. Alors, René parle cochois. Vous, est-ce que vous le parlez, votre père qui était professeur, vous empêchez, je crois, de le parler, mais est-ce que vous le parlez dorénavant?
Non, il m'empêchait pas de le parler, disons, pour le maître d'école, dans la classe, il fallait parler français, ailleurs, ça le dérangeait pas. Mais moi, c'est ma mère qui était normande et qui connaissait le patois normand, qui était aussi maîtresse d'école, et c'est vrai que ce sont mes souvenirs de la cour de récré et des jeux avec les autres enfants qui m'ont mis le cochois dans la tête, mais je le parle pas du tout aussi couramment que René. Bon, je le comprends bien et j'ai beaucoup de plaisir à entendre, disons, une langue ou un dialecte. Bon, chacun donnera la définition qu'il veut, mais j'ai beaucoup de plaisir à l'entendre, même si, bon, je sais bien que c'est en voie de disparition, hein.
Dans le récit de René que vous retranscrivez, il utilise beaucoup de mots et d'expressions typiques du Pays de Caux. Et pour faciliter la compréhension du lecteur, vous avez joint un glossaire au texte en annexe, en faisant référence au dictionnaire de Francis Yard, donc auteur rouennais du début du XXe siècle. Ce document, il est toujours une référence essentielle pour la compréhension du cochois ?
Ah oui, c'est la référence. Il y a quelques autres tentatives, mais c'est indiscutablement l'un des meilleurs. De temps en temps, je mets des expressions cauchoises, mais je m'arrange pour que dans le contexte, on comprenne sans avoir besoin du glossaire. Mais comme il y a des mots qui se répètent, et je me dis que le lecteur peut quelquefois avoir besoin de la traduction, entre guillemets, et bon, ça m'a beaucoup amusé de faire ce glossaire. Bon, les mots, je les ai pris chez Yard, mais il y avait 400 mots dans le vocabulaire du lin, par exemple, qui ne figuraient pas. J'ai eu du mal d'ailleurs à les orthographier, parce que, bon, il y a les arèches, c'est la paille du lin, par exemple. Bon, je savais pas trop comment ça s'écrivait, mais bon, je me suis un petit peu amusé avec le cauchois pour donner, disons, de la véracité au récit.
Et comment René a-t-il accueilli l'ouvrage ?
Ah ben, ça c'est une très bonne question, parce que je lui ai d'abord donné le manuscrit, et je ne savais pas ce que c'était qu'un manuscrit. Bon, il l'a lu entièrement, en notant un certain nombre d'inexactitudes ou de choses à ajouter. Et puis à la fin, il m'a dit, mais c'est sûr que je sais vraiment raconter tout ça. Je suis complètement étonné d'avoir pu dire tellement de choses que tu en as fait 200 pages. Disons, il était étonné lui-même que nos conversations, bon, c'est un homme de l'oral, même si il lit aussi des livres et il achète toutes les semaines le canard enchaîné, mais c'est un homme de l'oral et il était tout étonné que ça devienne un manuscrit, puis après un vrai livre. Il a maintenant un certain nombre de visiteurs, Valmontès, Fécampois ou autres, qui viennent chez lui et puis qui lui demandent une dédicace. C'est la gloire pour lui à Valmont. Il est un petit paysan et il est devenu une des personnes les plus connues du village.
À travers le destin de René Bénard, c'est donc toute la vie des campagnes normandes que ressuscite sous sa plume Christophe. Un récit documentaire à lire et à offrir pour que l'histoire des campagnes perdure.
Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.